Vous l'aurez compris, le journal est présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Le Premier ministre arménien grandement fragilisé après la défaite des troupes arméniennes au Haut-Karabakh. Nikol Pachinian est qualifié de traître et accusé d'avoir capitulé face aux Azerbaïdjanais. Nous irons à Erevan. Pas question de passer les clés de la Maison Blanche à Joe Biden. Donald Trump persiste et signe « We will win », nous allons gagner. Et malgré quelques défections, les Républicains semblent lui maintenir leur soutien. Nous joindrons Franck Madvon à Washington. Les énergies renouvelables devraient passer devant le charbon et devenir en 2025 la première source de production électrique dans le monde. Pour cela, l'Agence internationale de l'énergie appelle au maintien des soutiens publics. Trop tôt pour alléger le confinement, 551 décès ont été enregistrés dans les hôpitaux français en 24 heures. Public et privé joignent leurs forces dans la lutte contre l'épidémie. Reportage de Cécilia Arbona à la clinique de Chantilly dans l'Oise. Le Premier ministre arménien est en très mauvaise posture. Arrivé au pouvoir en 2018 avec l'aide de la rue, Nikol Pachinian se voit aujourd'hui accusé de traîtrise et appelé à la démission. Il a signé hier l'accord de cessez-le-feu permettant à l'Azerbaïdjan de conserver ses gains territoriaux au Karabakh. Après 6 semaines d'affrontements, c'était le seul moyen à ses yeux de permettre la survie de la région séparatiste. Région peuplée très majoritairement d'Arméniens, mais c'est un échec militaire cuisant et pour les Arméniens, une terrible humiliation. La correspondance de Régis Janté à Erevan.
En arrivant au pouvoir avec la révolution de velours du printemps 2018, Nikol Pachinian ne s'est pas fait que des amis. Des piliers qui permettent de durer au pouvoir en Arménie, lui, n'en dispose que d'un seul, le peuple. Véritable héros de cette révolution, il a su parler aux moins de 3 millions d'Arméniens et proposer des solutions à leurs difficultés très grandes du quotidien. Mais voilà, dans cette ex-république soviétique, un politicien doit aussi compter sur le soutien de Moscou qui dispose de leviers d'influence déterminants comme la sécurité du pays, le coût de l'énergie ou les règles pour venir travailler en Russie. Il faut aussi avoir le soutien des cercles politico-oligarchiques qui tiennent les médias, les grands commerces, le clientélisme politique. Pachinian ne dispose ni du soutien de Moscou, qui voit en lui un homme trop orienté vers l'Ouest, ni des cercles politico-financiers internes. Les jours et les mois qui viennent s'annoncent donc difficiles. Il ne lui reste que son talent politique pour reconquérir le cœur de ses concitoyens et éviter au pays une crise qui pourrait s'avérer majeure.
L'accord de cessez-le-feu a été conclu sous l'égide de la Russie, qui a aussitôt déployé des troupes de maintien de la paix dans le Haut-Karabakh. Et les négociations se poursuivent maintenant au sujet du contrôle de ce cessez-le-feu. Alors, quel est précisément le rôle de la Russie dans cette sortie de crise? Les explications de Jean-Didier Revoin depuis Moscou.
Ce soir, une chose est sûre, Moscou a pris à sa charge de ramener la sécurité dans la région. Ces soldats de la paix feront respecter le cessez-le-feu sur le terrain. Une question sur laquelle Bakou et Yerevan ne parvenaient pas à se mettre d'accord jusqu'à présent. Mais au-delà, la reprise des hostilités fin septembre a démontré la nécessité de construire une nouvelle architecture de sécurité plus générale. Et à ce titre, une partie, et non des moindres, est absente de cet accord. C'est la Turquie, dont on dit qu'elle a acheminé des djihadistes provenant de Syrie au Karabakh, dans le but de prêter main forte aux combattants azerbaïdjanais. Dès lors, en plus d'éviter que l'ensemble du Haut-Karabakh ne repasse sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, le volontarisme de Vladimir Poutine a également mis un frein aux velléités expansionnistes d'Ankara. La question des patrouilles conjointes de forces turques et russes pour garantir le cessez-le-feu évoquée depuis plusieurs semaines a été passée par pertes et profits. Du moins, elle n'apparaît pas dans l'accord signé hier soir, même si officiellement la Turquie s'est félicitée de la conclusion de cette trêve. Et après les violences commises hier soir à Yerevan, une dernière question demeure. Comment Moscou sera-t-il perçu? Comme un faiseur de paix ou alors comme un obstacle à la reconquête arménienne du Karabakh? Mais il est encore trop tôt pour pouvoir y répondre.
Aux États-Unis, la Cour suprême examine la loi dite Obamacare que les républicains n'ont jamais cessé de contester dans l'arène politique et en justice. Si la Cour suit la requête du gouvernement de Donald Trump, plus de 20 millions d'Américains pourraient se retrouver privés de couverture maladie. Donald Trump qui ne reconnaît toujours pas sa défaite à l'élection présidentielle et veut multiplier les actions en justice pour dénoncer des fraudes électorales auxquelles se seraient livrés, selon lui, les soutiens de Joe Biden. Le ministre de la Justice, Bill Barr, a donné son feu vert à l'ouverture d'enquêtes sur d'éventuelles irrégularités lors du scrutin du 3 novembre. Au vu du manque d'arguments solides, ces procédures judiciaires semblent avoir peu de chances d'aboutir, mais Donald Trump s'y accroche. Et pour l'instant, Franck Madvon, le camp républicain ne semble pas tout à fait prêt à lâcher son candidat.
C'est le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, qui donne le ton de la réaction des élus du Grand Old Party. Tous les bulletins légaux doivent être comptés. Le président Trump est à 100% en droit d'examiner les allégations d'irrégularité. Voilà ce que dit McConnell. Plusieurs élus républicains tiennent le même discours, on dirait du Trump dans le texte. En fait, c'est plus subtil. Peu de parlementaires affirment que l'élection a été volée. Mais les républicains sont conscients de la popularité de Donald Trump chez leurs électeurs, pas question de perdre leur soutien. Autre élément, le poids du vote par correspondance, plus favorable aux démocrates, et qui a fait basculer le scrutin pour Joe Biden, les inquiète. Des élus républicains appellent un changement du système électoral pour limiter ces bulletins par courrier. D'autres ne veulent tout simplement pas faciliter la tâche aux démocrates. Ils pensent aussi aux deux second tours prévus en janvier en Géorgie, cruciaux pour la majorité au Sénat. Ils sont donc en campagne. Quatre sénateurs républicains ont tout de même déjà félicité Joe Biden. Leur argument, ne fragilisons pas la démocratie. Mais au fond, Donald Trump, lui, s'intéresse-t-il seulement à ce que pensent les élus de son parti ? Washington, Franck Madvon, France Inter.
Et également pour France Culture, merci Franck Madvon. La défaite de Trump signe-t-elle un recul du populisme ? Ce sera la question posée par Emmanuel Laurentin à ses invités dans le temps du débat à 18h20. Pour tirer les leçons des attentats en France et en Autriche et intensifier la lutte commune contre le terrorisme, plusieurs dirigeants de l'Union européenne se sont retrouvés pour un mini-sommet en visioconférence aujourd'hui. Et Emmanuel Macron appelle l'Europe à répondre au terrorisme par une action rapide et coordonnée. Éric Bégala.
Ce mini-sommet aura été l'occasion pour Emmanuel Macron de relancer son idée évoquée la semaine dernière de refonder l'espace de Schengen, cet espace de libre circulation des personnes en Europe, un espace qu'il s'agit de préserver, a rappelé le président français.
Je pense simplement que face aux menaces qui sont les nôtres aujourd'hui, ce droit n'est soutenable et cette liberté n'est soutenable que si nous protégeons mieux nos frontières extérieures communes, ce que j'ai essayé de rappeler. Et donc, ce que nous souhaitons faire, c'est aller au bout d'une réforme sur le plan des migrations, qui nous permet de garder l'ouverture de nos frontières entre nous, mais en protégeant mieux nos frontières extérieures.
Ce renforcement des frontières extérieures de l'Union, tout le monde semble d'accord pour le faire, et ça passera aussi par des mesures relativement simples à mettre en œuvre, a promis Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.
Nous allons remédier aux lacunes du système d'information de Schengen, parce qu'on l'a vu, la mise en œuvre n'est pas toujours parfaite. Par exemple, à l'entrée dans l'Union européenne, seuls 80% de tous les passagers sont systématiquement contrôlés. Il faut qu'on améliore cela. Il suffit de faire passer le passeport sur un lecteur optique. Donc, des choses très simples à faire, mais qui peuvent contribuer à améliorer la sécurité.
Les mesures concrètes de renforcement des frontières extérieures de l'Union seront présentées au prochain Conseil européen des 10 et 11 décembre prochains.
Éric Bégala. Accord décisif sur le budget européen 2021-2027 entre les eurodéputés et les États membres. Il y avait urgence, les négociations se poursuivaient depuis 2 mois. Ce prochain budget, qui couvre une période de 7 ans, prévoit un plan de relance post-Covid de 750 milliards. Il est très attendu dans de nombreuses capitales pour pouvoir relancer leurs économies. Alors, précisons que l'accord doit être encore formellement endossé par les pays de l'Union et ratifié par les parlements. Mais une étape cruciale vient d'être franchie aujourd'hui, Angélique Boin.
Oui, une fois adoptée, cette enveloppe d'un montant de 1800 milliards d'euros sera le budget pluriannuel le plus important jamais financé par l'Union, se félicite la Commission. Un budget qui a été légèrement renforcé sous la pression du Parlement dans ses négociations. 16 milliards d'euros de plus que prévu initialement iront par exemple à la santé, la recherche ou encore Erasmus. Mais les élus se félicitent surtout d'avoir obtenu qu'à l'avenir, l'Union européenne puisse collecter 6 nouvelles taxes pour rembourser ses emprunts. Pour Valérie Ayer, élue centriste et négociatrice pour le Parlement, c'est un pas historique de plus vers l'intégration européenne.
La relance, elle doit être non pas payée par les citoyens européens, mais par ceux qui ne paient pas leur juste part d'impôts aujourd'hui. Par exemple, les géants du numérique, dont on sait qu'ils sortent gagnants de la crise et qui, par ailleurs, paient 2 fois moins d'impôts en Europe que les entreprises traditionnelles. Cette relance, elle doit être payée par les institutions financières qui spéculent. Elle doit être payée par les entreprises non européennes qui polluent. On marque un pas énorme dans l'autonomie budgétaire européenne.
Autre motif de satisfaction pour les eurodéputés, le versement des fonds aux États membres sera subordonné au respect de l'état de droit. Mais furieux de cette nouvelle disposition, le président hongrois Viktor Orban a menacé récemment de bloquer l'adoption de tout ce paquet budgétaire. Il bluffe ou bien il va tenter de négocier, estiment certains observateurs. Mais son pays, durement touché par la deuxième vague du Covid, a besoin lui aussi des fonds du plan de relance.
Angélique Boin en direct de Bruxelles. Les énergies renouvelables devraient devenir en 2025 la première source de production électrique dans le monde devant le charbon, estime l'Agence internationale de l'énergie. Mais pour que cette prévision devienne réalité, Annabelle Grelier, il faut le maintien des soutiens publics.
L'année 2020 sera une nouvelle année record pour le développement des énergies renouvelables. En pointe sur la transition énergétique, les États-Unis et la Chine ont augmenté leur capacité de production d'électricité solaire et éolienne de 30%. Un boom qui s'explique par les politiques publiques incitatives dans ces pays. Les industriels se dépêchent d'achever leur installation pour en bénéficier, précise l'AIE. Des plans de soutien d'État en effet qui ont rendu les marchés financiers euphoriques tout au long de l'année. Les valeurs boursières des énergies renouvelables se sont envolées. Entre décembre 2019 et octobre 2020, les valeurs renouvelables solaires ont plus que doublé leur valeur en bourse. Mais en règle générale, ce sont toutes les technologies qui en ont profité. La pandémie a même accéléré le basculement des flux financiers des grandes économies vers la transition énergétique, signant la fin de la croissance de l'usage du pétrole. Pour exemple, ces dernières semaines, la capitalisation du champion américain de l'éolien NextEra a détrôné celle de la major texane ExxonMobil. Et le phénomène devrait se poursuivre dans les prochaines années, prédit l'agence. Les centrales solaires et l'éolien offshore sont désormais les moyens les moins chers pour construire de nouvelles capacités de production d'électricité dans le monde. À ce rythme-là, l'AIE prédit qu'en 2023, les capacités de production électrique solaire et éolienne auront dépassé celles utilisant du gaz et en 2024, celles au charbon. Pour voir en 2025, dans 5 ans à peine, les énergies renouvelables devenir la première source de production d'électricité dans le monde.
Annabelle Grelier. À la suite des centaines de plaintes déposées contre la gestion de l'épidémie de Covid-19 en France, le pôle de santé publique du parquet de Paris a ouvert 4 informations judiciaires contre X. Ces informations judiciaires ont vocation à examiner les responsabilités de l'administration. Elles ont été ouvertes pour abstention volontaire de combattre un sinistre, mise en danger de la vie d'autrui et homicides et blessures involontaires. La deuxième vague épidémique n'est pas encore en décrue et les équipes soignantes sont mises à rude épreuve. Comme au printemps dernier, les hôpitaux publics reçoivent l'aide des établissements de soins du secteur privé. Dans l'Oise, la clinique des Jockeys de Chantilly est mobilisée. L'établissement a dédié une aile entière de son bâtiment aux malades Covid-19, Cécilia Arbona.
Sur une grande avenue bordée d'écuries et de centres équestres, la clinique des Jockeys dispose de 135 lits et emploie 250 personnes, dont 70 médecins et chirurgiens. Pour la deuxième fois cette année, l'établissement a basculé en mode Covid pour soulager les hôpitaux voisins comme celui de Creil et de Compiègne. Le docteur Sarah Taraf.
Il y a quand même pas mal de demandes de patients via les hôpitaux ou même de par notre accueil non programmé. Énormément de patients rentrent et en fait s'avèrent être des patients infectés Covid. Il y en a aussi des gens jeunes. Là, en 15 jours de temps, on a quand même fait 4 transferts en réanimation de gens entre 45 et 67 ans. Il y a quand même pas mal de personnel atteint, je trouve, cette deuxième vague. On a énormément de confrères ou d'infirmières, secrétaires qui ont été atteintes.
La clinique des Jockeys a dû faire appel à des extras, faute de personnel suffisant. Le docteur Jérôme Tessier.
En ce moment, on appelle beaucoup d'intérimaires qui ont un peu de temps libre au-delà de leurs 35 heures et puis qui viennent nous prêter main forte en disant voilà, on a besoin d'une infirmière anesthésiste, d'une infirmière de bloc. Et j'espère que le pic ne va pas continuer à grimper comme il était la semaine dernière. Si on arrivait à un plateau rapidement, on serait plus serein.
La semaine dernière, la clinique n'a pas eu le choix. Elle a dû faire transférer en urgence un de ses malades qui était en réanimation et dont l'état de santé se dégradait. La personne a été conduite en ambulance jusqu'à l'hôpital d'Amiens, dans la Somme, à 110 km de là.
Le protocole sanitaire a été renforcé dans les lycées. Malgré cela, les syndicats d'enseignants appelaient aujourd'hui à une grève sanitaire dans les établissements scolaires, réclamant encore plus de mesures anti-Covid. Selon le ministère de l'Éducation, elle a été suivie par un peu plus de 8% des enseignants et un rassemblement était organisé cet après-midi devant le ministère, Hakim Kasmi.
Malgré le confinement, Emmanuel, professeur des écoles à Maison-Alfort en région parisienne, tenait à manifester pour demander le dédoublement des classes afin de respecter correctement le protocole sanitaire.
Notre crainte, c'est que la situation sanitaire se dégrade et donc on soit obligé de fermer les écoles. Et ça serait une catastrophe pour nos élèves qui ont déjà perdu des semaines de classe l'année dernière. Il ne faut absolument pas que ça se reproduise, surtout pour les élèves des milieux les plus défavorisés.
Quant à Serge, professeur d'éducation physique et sportive dans un collège au Lila en Seine-Saint-Denis, il dénonce la position du ministère qui estime que le protocole ne doit pas être revu dans les collèges, et ce, malgré le non-brassage des élèves qui reste difficile à être appliqué.
Tous les épidémiologistes le disent, c'est que les gamins ne sont pas contagieux, enfin ils sont contagieux, ils sont asymptomatiques, mais ils continuent à transférer, à porter le virus.
De son côté, Marianne, professeure dans un lycée de Créteil, s'inquiète du nouveau protocole sanitaire qui va autoriser jusqu'à 50% de cours en distanciel dans les lycées, ce qui pourrait pénaliser les élèves les plus fragiles.
Les élèves des beaux quartiers, eux, sauront compenser cette dégradation. Nous enseignons dans un lycée dans lequel les élèves n'ont que nous. Donc quand vous parlez de cours à distance, quand vous parlez d'enseignement hybride, c'est totalement abstrait. Où est l'égalité ?
En attendant, pour tenter de rassurer les enseignants, le ministère va mettre en place, à partir de la semaine prochaine, des tests sérologiques pour tous les professeurs.
Reportage signé à Kim Kasmi. Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, ce serait bien de reporter les élections régionales, déclaré ce matin sur France Inter Christophe Castaner, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée. À son tour, le président du Sénat, Gérard Larcher, approuve ce report. Il évoque pour cela la date de juin 2021. Et pour ces élections, pourquoi ne pas recourir au vote à distance ? La question a été posée au gouvernement cet après-midi. Mais le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est montré réticent.
Le système électoral français fonctionne. Ce système électoral français, il correspond sans doute à un certain nombre de critères qui empêchent peut-être d'aller vers le vote à distance, comme vous l'évoquez. Deuxièmement, monsieur le député, nous ne sommes pas capables aujourd'hui, au ministère de l'Intérieur en tout cas, mais la réflexion peut se poser, d'être sûr que ce scrutin, comme le scrutin électronique, soit entièrement incontestable, vu qu'effectivement des cas de fraude peuvent être relevés. Et nous avons fait le choix de l'isoloir, de l'urne et des préaux d'école pour caricaturer. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort dans le scrutin électoral français, c'est qu'un tiers ne peut pas faire de poids communautaire. Le fait du mari envers sa femme, de sa femme envers son mari, ou d'une personne sur une autre, du père sur ses enfants par exemple, ou de la mère sur ses enfants, pour voter librement dans un isoloir. Je souhaite pour ma part qu'on puisse continuer à voter librement dans un isoloir.
Gérald Darmanin, cet après-midi à l'Assemblée nationale. L'attentat au camion du 14 juillet 2016 à Nice donnera lieu à un procès d'assises. 3 hommes sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes criminels, 5 autres suspects pour participation à une association de malfaiteurs. Monseigneur Luigi Ventura, ancien ambassadeur du Vatican en France, est jugé à Paris pour agression sexuelle. Face aux nombreux scandales sexuels qui ont éclaboussé l'Église catholique, le pape François avait promis de se montrer intransigeant et le Saint-Siège a levé l'immunité diplomatique du nonce apostolique. C'est donc la première fois qu'un diplomate aussi haut placé dans la hiérarchie du Saint-Siège doit répondre devant la justice française. Mais la première audience s'est déroulée en son absence. Le compte-rendu de Florence Turme.
Ils sont 3 à être venus s'asseoir sur les bancs de la partie civile, 3 jeunes hommes à la silhouette fine, cheveux bruns, paroles calmes. Ce n'est pas qu'une histoire de main aux fesses, c'est une agression sexuelle par un ambassadeur, expose Mathieu. Pour tous les 3, la même sidération dans un contexte identique, une cérémonie officielle en présence de nombreuses personnes. Un geste précis, un acte délibéré, assumé, qui n'a rien à voir avec une maladresse, insiste Benjamin. Il se rappelle aussi le regard et le sourire du nonce qui contacte lors des confrontations, évoque son tempérament en latin, des signes mal interprétés. 5 mains aux fesses, appuyées lors de la cérémonie religieuse où il officiait pour lui. À la barre, Mahé raconte à son tour « Mon réel désir à l'époque était de devenir prêtre », commence le jeune homme qui s'occupe désormais de personnes polyhandicapées. « Je suis catholique pratiquant », poursuit-il. « Il ne s'agit pas d'attaquer l'Église, ce sont des faits que j'ai vécus qui m'ont fait mal. » Il en parle à ses supérieurs, à l'évêque du diocèse, explique même avoir pensé à retirer sa plainte. Tout le monde m'a dit « tu t'attaques à des gens plus forts que toi, ça va te tuer ». le conseil du séminaire a voté l'arrêt de sa formation. Avez-vous connaissance d'autres victimes ? Interroge son avocate. Oui, d'autres séminaristes m'ont parlé, mais je ne donnerai pas leur nom. Je ne leur souhaite pas cette souffrance d'avoir été viré du séminaire. J'attends que la justice des hommes rende justice, ajoute le jeune homme. J'y crois et j'attends. J'aimerais aller voir le supérieur et lui dire « Regardez, je suis vraiment une victime ».
Florence Turme. Le temps va changer demain. Après une matinée sous la grisaille, une nouvelle perturbation atlantique arrivera l'après-midi par la Bretagne. Il pleuvra sur le Finistère en fin d'après-midi et sur les régions allant de l'estuaire de la Seine aux Charentes en soirée. Les températures minimales, 7 à 13 degrés. Il fera 13 à 15 l'après-midi sur la moitié nord, entre 16 et 21 sur le sud et en Corse. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.